Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Alexandre de Saint-Aignan.
Bonjour, bienvenue à tous dans RTL Midi. À la une aujourd'hui, des vents très violents sur la moitié sud, près de 200 km/h. Cette nuit en Corse, Ajaccio reprend vie timidement. 100 000 foyers sont privés d'électricité dans le sud-ouest en Nouvelle-Aquitaine. Jean-Marc Terrier nous attend sur place. Bonjour Valérie Quintin.
Bonjour.
Est-ce qu'on peut se rassurer en se disant que le pire est derrière nous?
Alors, le gros de la tempête est passé, c'est vrai. Pour autant, les vents vont se renforcer sur les côtes aquitaines, justement cet après-midi vers 16-17h. Ça va recommencer à souffler assez fort, entre 100 et 120 km/h en pointe. Pour l'heure, on a toujours des rafales à 150 km/h en Corse, du côté de Bonifacio, on a 131 km/h relevé à l'île Rousse. Sur le continent, ça commence à souffler aussi en PACA. La Ciotat a reçu une bonne rafale à plus de 120 km/h. Ça va être le cas encore une grande partie de la journée, mais ça durera surtout jusqu'à demain matin sur la Corse. Pour les autres, ça se tasse un petit peu. C'est vrai que le gros est passé. On a pas mal de pluie dans l'Est et donc beaucoup de neige en montagne. Attention, du coup, dans les Alpes, un fort risque d'avalanche. Mais tout cela dans la douceur, avec un bon 10 degrés à Lille, 11 à Brest et à Paris, 13 à Lyon et 18 à Nice.
Rendez-vous à la fin du journal pour un nouveau point complet sur la météo. Un coup d'œil sur la route, le trafic avec vous, Pierre Collat. Quelques ralentissements en direction des stations de ski notamment.
Oui, la 6 est très chargée entre Paris et Lyon. Ça bouchonne sur 8 km à hauteur d'Auxerre, 5 km à hauteur de Saint-André en terre pleine et 3 km entre Villefranche-sur-Saône et Lyon. Soyez prudents ensuite sur l'A43 vers Chambéry. Il peut y avoir quelques coups de frein. Et puis c'est très dense dans la remontée de la vallée du Rhône. Vous perdez une quarantaine de minutes entre Orange et Lyon. Soyez très prudents entre Bolène et Valence. Il y a de nombreux ralentissements.
Et tout se termine bien pour les enfants seuls de la SNCF. Les premiers TGV Junior et compagnie sont bien partis ce matin. 5000 places avaient été réquisitionnées au dernier moment par la compagnie ferroviaire malgré la grève. Une volonté de cohérence selon l'Élysée. Emmanuel Macron va renoncer à sa retraite de président de la République. Plus de 6000 euros par mois, le chef de l'État va se soumettre à la retraite à points. Des huîtres, des langoustines, des crevettes, un tourteau, quelques palourdes, des bulots. Comment réussir son plateau de fruits de mer? Nos régions vous régalent aujourd'hui dans le Finistère avec Patrice Gabart. Et puis, si tout ça vous donne de l'urticaire, vous n'êtes peut-être pas allergique aux fruits de mer, mais peut-être tout simplement allergique à Noël. Pour éviter que le réveillon se transforme en guerre des tranchées, nous serons avec le philosophe Stéphane Flocari et ses conseils pour survivre à Noël. Vous avez le programme, il est 12h32 sur RTL.
RTL Midi.
Alexandre de Saint-Aignan.
Il ne reste plus que 6 départements en vigilance orange désormais, mais la nuit dernière a été brutale dans le sud de la France. Une nouvelle tempête avec des vents très violents. Parmi les dégâts, on recense 95 000 foyers privés d'électricité. Jean-Marc Terrier en Gironde, vous avez suivi les câbles électriques jusqu'à une ferme au bord du bassin d'Arcachon.
Un énorme bruit a réveillé Romain et Mélanie pendant la nuit. Ils travaillent tous les deux sur une exploitation de production de céréales et de légumes à Lenton. Le bruit, c'est celui de la ligne moyenne tension qui traverse leur propriété et qui n'a pas résisté à la chute d'un pin de plus de 15 mètres de haut.
Ça fait comme s'il y avait un gros orage. On s'est dit, mais c'est bizarre quand même, malgré qu'il fasse bon. Et là, il y a un gros éclair bleu avec un son, un gros son. On s'est dit, il y a un gars qui a sauté, ça y est. Et de là, en fait, ça fait un bruit électrique. On s'est dit, là, ça y est, ça a sauté quelque part. Et puis c'était derrière, quoi. Les fils ont rompu.
La violence du vent a également endommagé deux énormes systèmes d'irrigation.
Deux pivots qui se sont renversés, quoi. Et cassé, quoi. Ah, cette nuit, ça soufflait très fort.
Ouais. Ce matin, à la lumière du jour, vous êtes parti regarder les dégâts, quoi.
Ben oui, j'ai eu d'abord l'appel de la police municipale parce qu'ils voulaient rentrer sur la propriété mais pour voir les dégâts électriques. Et puis après, j'ai fait mon tour, quoi.
Les équipes d'Enedis vont intervenir cet après-midi pour, dans un premier temps, sécuriser la ligne et ensuite commencer les travaux de réparation pour pouvoir la reconnecter au réseau.
Jean-Marc Terrier en Gironde pour RTL. C'est au Cap Corse qu'on a mesuré les rafales les plus importantes cette nuit. 196 km/h. Beaucoup de vent, beaucoup de pluie également, ce qui a provoqué des inondations. Ajaccio a passé la nuit coupée du monde. Des routes barrées, aéroports fermés, navigation interdite. Les accès routiers viennent d'être rouverts, Thomas Dulin.
Oui, alors prudence quand même. Hein. Il faut rester prudent, notamment en bord de mer avec ces risques de vagues submersion. Globalement, la ville d'Ajaccio a été relativement épargnée, mais la tempête n'est pas terminée. Alain Marcangeli, le maire d'Ajaccio.
Il n'y a pas de gros dégâts. On s'attend peut-être à en avoir davantage aujourd'hui, puisque maintenant c'est le vent qui a pris la suite. Les gros dégâts ont été notamment sur des zones plus rurales que la ville d'Ajaccio. Vous avez eu quand même des maisons individuelles submergées complètement, des véhicules qui ont été emportés par la crue de certains cours d'eau. Vous avez des ponts qui ont été submergés, donc il faudra effectuer des travaux.
Le plus gros de la tempête est donc passé, mais les perturbations ne sont pas totalement terminées pour autant. Tiens à rappeler Alain Charrier, secrétaire général de la préfecture de Corse du Sud.
Les pluies ont cessé, le pic des rivières de crue est passé. Il demeure pour l'ouest de la Corse et pour l'Est. Une situation préoccupante en matière de vagues et de submersion et en matière de vent, de l'ordre de 100-110 km/h.
Un bilan total des dégâts en Corse reste pour le moment impossible. La préfecture entamera un état des lieux dès demain avec les différentes communes de l'île.
Thomas Dulin pour RTL. Du côté des trains, aujourd'hui, trafic encore très perturbé à la SNCF. Un TGV sur deux, 30% des TER et 20% des Transiliens. La compagnie ferroviaire avait dans un premier temps, souvenez-vous, suspendu son service junior et compagnie à cause de la grève, menaçant de priver plusieurs milliers d'enfants qui avaient prévu de prendre le train tout seul pour rejoindre leur famille. La SNCF a finalement réquisitionné 14 TGV, 5000 places et l'un de ces trains est parti ce matin de Montélimar. Bertrand Frachon, vous les attendiez, ces enfants, à leur arrivée sur le quai?
Impossible de les manquer avec leurs casquettes blanches marquées à leur nom. Les enfants sont arrivés à bon port à la gare TGV de Lyon-Saint-Exupéry, attendus par des parents soulagés de pouvoir les récupérer pour les fêtes.
Donc je viens de côté de Montélimar et on vient les récupérer avec les trois enfants.
Il y a tous les 10 cousins réunis, donc je pense qu'ils vont faire la fête et s'amuser.
Soulagés ?
Très. On aurait été très déçus, déjà pour eux, et puis pour les autres cousins qui, eux, arrivant de Bordeaux, avaient réussi à venir.
La situation du moment est difficile pour tout le monde, mais il est évident quand on paye un service et qu'on prend entre guillemets en otage des enfants, c'est compliqué.
Des enfants âgés de 4 à 14 ans, contents de leur voyage et de ses retrouvailles familiales.
J'ai bouquiné un petit peu et fait un petit peu d'écran, et voilà.
On s'est bien occupé de toi dans le TGV ?
J'avais pas besoin en fait. Du coup, je suis restée un petit peu dans mon coin.
T'as eu peur de pas arriver à rentrer ?
Non, puisque je savais que j'allais rentrer.
Pour dédommager des familles furieuses à l'annonce de la suppression du service d'accompagnement pendant la grève, la SNCF, qui a finalement affrété ses 14 TGV spéciaux, a annoncé qu'elle appliquerait une réduction de 50% sur le tarif du service.
Bertrand Frachon dans le Rhône pour RTL. La SNCF qui a donc mis les bouchées doubles pour assurer le transport des enfants, mais pour le reste des passagers, il n'y aura pas de miracle. On en parle dans un instant.
RTL Midi.
Tous les matins pour le plaisir.
RTL Midi, Alexandre de Saint-Aignan.
Midi 38 sur RTL. La grève a déjà perturbé les premiers départs en vacances de Noël, mais le gouvernement veut montrer qu'il ne baisse pas les bras. Il tente toujours de faire pression sur les syndicats et notamment sur les syndicats de cheminots. Je crois qu'il est bon de savoir faire trêve, c'est ce qu'a déclaré hier soir Emmanuel Macron. À terme, Marie-Bénédicte Allaire, certains imaginent même réquisitionner du personnel pour conduire les trains, comme pour les grèves à l'hôpital.
Un service minimum, c'est vrai que certains dans la majorité en rêveraient. Et quel ministre des Transports n'y pense pas quand il est confronté à une grève? Mais ce n'est pas pour les 10 jours qui viennent, explique à RTL un acteur du dossier. Trop clivant dans la période, ajoute un bon connaisseur du sujet. Officiellement, le gouvernement espère encore aboutir par la négociation et le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, recharge son téléphone 3 fois par jour pour pouvoir être joignable en continu. Mais son optimisme s'est singulièrement refroidi depuis la décision de la CFDT Cheminots de poursuivre la grève. Reste l'espoir qu'individuellement, certains grévistes décrocheront pour observer une trêve pendant les fêtes. D'où l'appel à l'esprit de responsabilité lancé hier soir par Emmanuel Macron. Mais quand bien même, au vu des délais nécessaires pour repenser le plan transport, le gouvernement sait bien que nombre de Français n'auront pas leur train pour fêter Noël en famille. Les trains des enfants qui ont finalement pu être affrétés sont dans ce contexte presque un miracle.
Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. En plein débat sur la réforme des retraites, une décision symbolique hier soir de la part du chef de l'État. Emmanuel Macron renonce par avance à sa future retraite, une pension de 6 220 euros mensuels. Il ne siégera pas non plus au Conseil constitutionnel, là où les anciens présidents bénéficient selon la tradition d'une place rémunérée à vie, 13 500 euros par mois. Ce matin, des responsables de gauche relativisent ce renoncement d'Emmanuel Macron à sa retraite. Un luxe que tout le monde ne peut pas se payer, je cite. L'entourage du chef de l'État lui l'assure, il n'y a pas de volonté d'affichage, seulement une volonté de cohérence. Emmanuel Macron sera soumis, comme tous les fonctionnaires, au futur système de retraite à points. Emmanuel Macron qui tente de faire passer un message aux grévistes, le chef de l'État qui poursuit sa visite en Côte d'Ivoire aujourd'hui avec son homologue Alassane Ouattara. Il se rend à Bouaké, au nord d'Abidjan, ancienne base militaire française qui avait été bombardée mystérieusement il y a 15 ans. 9 soldats tués en novembre 2004 en pleine guerre civile. Marie Mollet, vous suivez le chef de l'État sur place pour RTL, il va leur rendre hommage.
Oui, un hommage d'une grande sobriété. Les deux chefs d'État recueillis côte à côte, là où la bombe est tombée. Ici, les baraquements portent encore la trace des éclats de roquettes. Sous un voile blanc, une stèle et les noms des 9 soldats tués. Une cérémonie simple qui fait pourtant écho à l'une des pires crises diplomatiques franco-africaines. L'affaire Bouaké, ce camp militaire pilonné par des avions de l'armée ivoirienne à la stupeur générale. 10 morts, représailles de l'armée française. 15 ans plus tard, les circonstances restent énigmatiques. Qui étaient les mercenaires aux commandes des avions? Qui a commandité? En tout cas, en venant ici, Emmanuel Macron veut marquer la réconciliation des deux pays sur les sujets les plus sensibles. Aucun président français ne s'était encore rendu à Bouaké.
Marie Mollet, envoyée spéciale de RTL en Côte d'Ivoire. Un changement en capitale pour 8 pays d'Afrique de l'Ouest. La fin du franc CFA, cette monnaie issue de la colonisation, perçue comme un vestige de la France-Afrique, elle va changer de nom pour s'appeler l'ECO. Les banques centrales d'Afrique de l'Ouest n'auront plus à déposer la moitié de leurs réserves de change auprès de la Banque de France. Annonce conjointe hier soir d'Emmanuel Macron et d'Alassane Ouattara. En sport, cet après-midi, il y a du rugby en cours, le top 14 et le Stade français qui reçoit la section paloise, à suivre également à 16h50 Bordeaux-Bègle, La Rochelle, et puis à 21h Toulon qui recevra Clermont. Autre rendez-vous à noter, les grosses têtes du sport ce soir, émission spéciale de fin d'année avec en invité notamment la boxeuse Sarah Ouramoun, le tennisman Julien Benneteau, le gymnaste Samir Aït Saïd ou encore le footballeur Alain Bogossian. Ça promet, vous avez noté, ça commence à 18h30 jusqu'à 19h. En Ligue 1, un repos bien mérité après une dernière journée de 2019 flamboyante. Il y a eu du spectacle hier soir, 35 buts marqués au total. C'était Noël avant l'heure et ça vous a peut-être donné des idées. Mbappé, Neymar, Ben Yedder ou encore Amal Fitano, ce sont ceux qui ont marqué hier soir. Un maillot de foot pour votre petit garçon ou une voiture télécommandée. 48 heures du réveillon, il va falloir se décider. Dans le Nord, les acheteux font leur dernière course de Noël. Antoine Decarne, vous êtes près de Lille, dans un centre commercial déjà noir de monde.
Oui, les allées étaient déjà pleines dès l'ouverture à 9h ce matin. Installés à la sortie des boutiques, Jérémy et son équipe sont chargés d'emballer les cadeaux. Ils n'arrêtent pas une minute.
On fait facile une cinquantaine de cadeaux par personne, on est 7, donc on emballe beaucoup. Ils sont contents de voir des personnes qui sont là pour emballer, comme ça quand ils arrivent à la maison, ils ont pu le faire.
Les cadeaux pleins les bras, les parents ou grands-parents ont enfin pu commencer leurs achats.
On est venu au dernier moment parce qu'on travaille beaucoup et en fait on s'y est pris la dernière minute parce qu'on a fait la liste des gamins la semaine dernière, donc vous voyez, dans la précipitation, 2 jours avant, on se dit c'est le moment ou jamais.
C'est toujours la dernière minute qu'on s'y prend, donc alors, on a explosé un petit peu le budget déjà. On a quelques petites idées, mais il y a toujours un petit imprévu quoi.
Et cet imprévu, il est aussi valable pour les gens qui ont déjà leurs cadeaux mais qui se laissent attirer par les promotions.
Étant donné qu'il y a des moins 30 et moins 50, donc on rachète des jouets supplémentaires pour les enfants.
Et au vu du monde présent dans le centre commercial ce matin, les enfants risquent d'être gâtés cette année.
Dans le Nord pour RTL, Antoine Decarne. Pendant ces vacances de Noël, plein d'activités au programme. On vous emmène au spectacle ce midi, premier rang, au cirque Romanès avec Romain Hougue.
Sous le chapiteau des Romanès, poésie et simplicité prennent le pas sur les numéros sensationnels.
Nous n'avons aucune convention.
Le dirigeant du cirque, Alexandre Romanès, y tient. Ici, pas de structure démesurée. Le public est au plus près des artistes.
On est à contre-courant parce que les cirques chapiteaux, on peut dire que ce sont des hangars pour avions. Nous, regardez le chapiteau, il mesure 20 mètres. On n'a que 300 places, alors que les chapiteaux maintenant, c'est 3, 4, 5 000 places.
Les numéros s'enchaînent au rythme effréné de la musique, parfois dans les airs, sur un trapèze ou parfois en équilibre sur une corde tendue. Les minutes défilent sans que les spectateurs ne s'en rendent compte. Et au cœur du show, bien sûr, la culture tzigane, si chère aux yeux de Rajenka, l'une des petites filles de la famille.
Mon père dit que quand je serai une vieille femme, cette culture n'existera plus, donc c'est très important pour moi de faire perdurer ça, puis montrer qu'on n'est pas aussi les gros monstres dont tout le monde parle.
Le chapiteau est loin d'être rempli, c'est le cas depuis le début de la grève dans les transports.
Les gens n'arrivent plus à venir, puisque le métro est bloqué. C'est bête, hein.
Mais pour les enfants et parents présents, l'émerveillement est au rendez-vous.
Je me suis amusée, j'aimerais bien devenir comme elle et c'était bien.
J'ai eu l'impression d'aller au cirque pour la première fois, en fait. J'ai eu la pétoche quand il y avait une trapéziste, enfin le truc normal, je me suis dit « Oh non !» Et en fait, ouf, je suis redevenu un gamin pendant une heure.
Et les Romanès espèrent voir à nouveau les yeux du public briller pour leur grande soirée du réveillon le 31 décembre prochain.
Un reportage signé Romain Hougue. Il est 12h45 sur RTL.
RTL.
Nos régions vous régalent.
Et on va se régaler aujourd'hui avec un beau plateau de fruits de mer, la star des réveillons. Mais alors, comment faire pour réaliser un beau et surtout un bon plateau de fruits de mer? Choix des produits, temps de cuisson, secret du court bouillon. Direction la Bretagne avec vous, Patrice Gavard, bonjour.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous.
Alors, pour répondre à toutes ces questions, vous avez rejoint les cuisines du Vieux-Aubaine, un excellent restaurant de fruits de mer du port de l'Abervrac, dans le nord du Finistère.
Oui, presque à la source, puisqu'il suffit de traverser une route pour faire son marché au cul des bateaux, comme on dit en Bretagne. Et en cuisine, c'est le chef Yvon Morvan, 35 ans de métier dans la haute gastronomie, auprès de Joël Robert Buchon et Jean-Paul Duquesnois à Paris ou encore Paul Bocuse à Lyon. D'ailleurs, lui-même a été étoilé au Michelin à Brest pendant 8 ans avant de vendre son restaurant et s'installer à l'Abervrac.
Alors, on va préparer un joli plateau de fruits de mer pour 2 personnes. Alors, on va mettre dedans 2 araignées d'environ 1 kg pièce, 12 belles langoustines, 8 huîtres creuses et 4 huîtres plates, 2 par personne, une belle poignée de bigorneaux, 4 palourdes et 4 coques.
Alors c'est quoi justement la règle numéro 1 du beau plateau de fruits de mer?
Eh bien la fraîcheur des produits pour commencer. Ça c'est indispensable, des produits vivants. Alors après il y a plein de petites astuces. Déjà premier conseil pour l'araignée, je vous conseille de l'acheter la veille et de la laisser reposer une nuit au frigo. Il vaut mieux qu'elle soit un petit peu endormie avant de la cuire pour éviter que toutes ses pattes ne partent à la cuisson. Alors les huîtres ça se conserve 3-4 jours au frigo, il n'y a pas de problème. Palourdes vivantes aussi et coques vivantes qui sont travaillées crues dans le plateau.
Et sachez qu'une belle langoustine, c'est une grosse langoustine. Il en faut 25 à 30 pour faire le kilo.
Alors l'étape suivante, c'est le court bouillon avec des temps de cuisson propres à chaque produit. Il ne faut pas se rater. Hein.
Là, de toute évidence, il faut sortir ses plus grosses marmites car le chef n'hésite pas sur le volume d'eau. Environ 6 litres pour les 2 araignées et autant pour les langoustines.
Quand l'eau bout, on met son assaisonnement dedans. Donc 80 g de gros sel, 6 g de poivre moulu, poivre blanc, poivre noir, peu importe, quelques graines de coriandre, une branche de thym, une feuille de laurier. Je mélange l'eau pour que tous les éléments se diffusent bien et parfument cette eau. On laisse revenir l'ébullition. Je vais prendre mes 2 araignées, mes 2 belles araignées. Voilà, ça bout. Hop, je les plonge dedans. On met un couvercle dessus pour que l'ébullition revienne le plus vite possible. Dès que l'ébullition est revenue, je vais enlever mon couvercle et on laisse cuire 15 minutes. La cuisson doit être précise. La langoustine, donc, même quantité d'assaisonnement pour environ 6 litres d'eau. Et là, c'est 2 minutes, montre en main, l'ébullition a à peine le temps de revenir. Et on les sort.
Pour la cuisson des bigorneaux, la recette du chef, 2 litres d'eau, 100 g de gros sel, 5 g de poivre blanc, 5 g de mélange de baies, du thym, du laurier et 2 gousses d'ail pour relever la saveur. On démarre à froid et on retire la casserole au début de l'ébullition. Dernière astuce, on peut les laisser dans le bain de cuisson une nuit entière dans le frigo.
Bon alors, tant pis pour le régime, mais une fois que le plateau est sur la table avec la vinaigrette ou le citron pour les huîtres, qu'est-ce qu'on fait de la mayonnaise?
Alors évidemment, la mayonnaise, il faut la faire maison.
Vous entendez le chef, hein, surtout ne sortez pas le tube de mayo qui a peut-être garni vos sandwichs les jours de grève.
Déjà, première chose, tous les éléments doivent être à même température. Votre cul de poule qui servira pour faire la mayonnaise, le fouet et tous les ingrédients. Pour un demi-litre d'huile de colza, vous mettez 40 g de jaune d'œuf, ce qui correspond à 2 jaunes d'œufs. 40 g de moutarde, on les met dedans, on les mélange, on rajoute un petit peu de sel, un petit peu de poivre, une petite pincée, et on vient incorporer notre huile de colza, un petit filet, et on mélange délicatement, on fait couler au fur et à mesure, on voit la consistance qui est en train d'arriver, de prendre, ça dure 2 minutes. Hop, on accélère son mouvement, on la serre bien, on goûte, rectifier éventuellement l'assaisonnement. C'est dommage de passer à côté de ça.
Pour conclure, cette citation de Paul Bocuse, affichée à l'entrée des cuisines de ce restaurant de fruits de mer, « Il n'y a pas de bonne cuisine si au départ, elle n'est pas faite par amitié pour celui ou celle à qui elle est destinée. »
Allez, s'il vous plaît, on enlève 2 plateaux de fruits de mer. On y va pour 2 plateaux de fruits de mer.
J'ai l'impression que c'est surtout vous, Patrice, qui vous êtes bien régalé aujourd'hui. Nos régions vous régalent sur RTL.
Alexandre de Saint-Aignan.
RTL Midi.
Et on va continuer de parler de Noël dans RTL Midi, une fête avant tout familiale. Les petits-enfants, les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins, c'est l'occasion de se rassembler. Bonjour Stéphane Flocari.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, auteur d'un essai paru l'an dernier, Survivre à Noël, tout un programme. L'esprit de Noël, alors c'est de se retrouver, c'est de partager avec les siens, mais c'est pas forcément passer un moment agréable pour tout le monde.
Ben, disons que quand on pense à une fête, on pense plutôt à un moment de réjouissance, on pense plutôt à éventuellement un moment de remémoration. Mais cette fête est une fête particulière. C'est pas Noël et pas simplement une des fêtes que la famille vit, comme ça peut être le cas d'un anniversaire ou d'une fête religieuse dans certaines familles.
Qu'est-ce qui fait que c'est aussi particulier?
Mais parce que c'est une fête de la famille, c'est une fête des liens. Quelques jours plus tard, au Nouvel An, chacun va essayer de prendre un nouveau départ, en général entouré de ses amis, Alors qu'à Noël, il s'agit de retourner chez les siens. Et retourner chez les siens, c'est toujours une affaire compliquée. Alors, le sociologue Roger Caillois, quand il évoquait la notion de fête, on parlera peut-être aussi un peu d'Émile Durkheim, qui sont deux grands spécialistes des faits sociaux.
Oui.
Quand on pense à ce qu'est une fête, c'est une réunion dans laquelle chacun a un rôle. Et Caillois nous dit, en réalité, quand on pense à la fête, on pense aux vacances. D'ailleurs, Noël tombe au milieu des vacances de Noël. Mais ce que les rôles sont à la fête, les camps le sont à la guerre. Et il faut bien dire que Noël ressemble, pour un certain nombre de nos semblables, parfois une bataille de tranchées, une guerre de position. Il faut savoir où se placer, qui on est, retourner chez les siens qui parfois sont plus tous là, ou dont certains sont en conflit.
C'est des mots très durs quand même que vous utilisez.
Ben, c'est des mots très durs au sens où, comment dire, Noël est pour beaucoup de gens une fête à laquelle il faut se préparer autant que la préparer. Vraiment, Noël est une fête qui tourmente les gens. Alors moi, j'avais fait un premier livre sur le Nouvel An, pour des raisons philosophiques, guidées par mes propres recherches sur Nietzsche. Et quand j'ai fait ce livre, vraiment l'écho qu'il y a eu aussi bien auprès des critiques que auprès des lecteurs, c'est que Noël rendait les gens dingues et que les gens voulaient comprendre. Alors j'ai essayé de m'atteler à la tâche et d'essayer de comprendre ce qui se passait. Et en fait, ce qui se passe à Noël, c'est que quand on se retrouve chez les siens, comment dire, on se retrouve, je parlais tout à l'heure de Durkheim, face à différentes difficultés et nécessités. La fête, normalement, c'est ce qui nous met en contact. C'est aussi, dit Durkheim, ce qui nous permet d'évaluer les liens qu'on a avec ses proches et avec les siens, et aussi de mesurer la qualité de son intégration sociale. Pour aller très vite, il y a trois niveaux d'intégration.
Oui.
Il y a l'intégration de la famille dans la société. Toutes les familles ne fêtent pas nécessairement Noël, et certaines s'intègrent dans la société précisément en se mettant à le fêter. Il y a l'intégration de l'individu dans sa propre famille, qui peut être une intégration qui peut être variable. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, ce qui a été un peu le cœur battant de ce livre que j'ai écrit sur Vivre à Noël, c'est celui du rapport entre les vécus que l'individu a et lui-même. Or, ces vécus sont variables selon l'année qu'on a eue. Par exemple, on peut penser que cette année, pour beaucoup de gens, Noël sera à la fois quelque chose d'un peu compliqué, un peu difficile à organiser sur le plan logistique. Mais je prends le pari que beaucoup de nos concitoyens seront heureux à ce Noël-là. Parce que justement, tout le monde parle de trêve syndicale, ouais, de grève, etc. Mais il y aura peut-être un peu une trêve émotionnelle, une trêve affective pour beaucoup de gens.
Il faut espérer, parce que pour l'instant, vous parlez de choses qui sont quand même assez dures, assez violentes pour une fête qui est normalement effectivement une fête familiale. Et comment est-ce qu'on peut faire alors pour survivre à Noël? Comment est-ce qu'on fait pour être heureux? Et comment il faut quoi faire preuve de diplomatie?
Alors si vous voulez, c'est un peu normal en tant que philosophe que d'essayer de prendre un problème, disons à rebrousse-poil de la doxa, oui, et de s'élever un petit peu au-delà des clichés. Mais bien sûr, moi, autant je pense que Noël est un petit drame, hein, individuel et collectif, autant je pense aussi que c'est une fête merveilleuse, une fête fantastique, et dans laquelle effectivement on peut trouver des remèdes pour ne pas trop en souffrir. Par exemple, en essayant de bien définir ce que les psychanalystes appellent son soi intime. Parce qu'en réalité, quand on se retrouve dans une fête comme celle de Noël, nous sommes en conflit, c'est sans doute une des causes de la difficulté à vivre, entre notre soi intime et notre soi statutaire. Chacun a une place dans sa famille, chacun a une place dans le corps social, et évidemment, chacun doit tenir son rang à Noël. Mais chacun a aussi des aspirations intimes, personnelles, qui lui sont propres. Et donc, il faut essayer, de concilier à la fois les aspirations de ce soi intime et les exigences de ce soi statutaire, quitte à laisser l'un prendre le pas sur l'autre, le soi intime sur le soi statutaire, selon les moments de la soirée, et peut-être, ce que je dis souvent quand on pose la question, s'inscrire dans la temporalité de la soirée, la vivre dans un temps qui n'est pas un temps contraint, qui n'est pas un temps productif, mais entrer en contact avec qui on veut, quand on veut, et chaque famille invente son propre rythme.
Il y a quand même des familles où tout se passe bien, il y a des familles où ça... n'y a pas forcément tous ces conflits.
C'est-à-dire que quand vous mettez dans la même phrase famille et tout se passe bien, il n'y a pas besoin de Noël pour que l'affirmation soit problématique. Je veux dire que la famille, c'est un lieu à la fois merveilleux et en même temps, c'est un sac de nœuds et c'est le fleuve et le lit de toutes les névroses. Donc être en famille, de toute façon, c'est compliqué, il ne faut pas se le cacher. Alors c'est plus facile pour l'enfant si la famille est stable.
Il faut réussir à trouver sa place.
Voilà, il faut réussir à trouver sa place ou à retrouver sa place ou à changer de place ou à évoluer dans sa place. Vous savez, quand vous posez la question aux individus en général, sauf dans les familles où il y a vraiment eu des très très gros problèmes, jusqu'à la fin de l'adolescence, jusqu'au milieu de l'adolescence, les gens adorent Noël et vivent très très bien Noël. Après, parmi les adultes, c'est variable. Ça dépend des époques de la vie, ça dépend des événements qui vous surviennent.
Alors, ça m'inspire une dernière question. Est-ce qu'on peut, du coup, se passer des fêtes de Noël sans se mettre toute sa famille à dos ?
Ah, ça, c'est une très bonne question. Vous savez, à Noël, moi, il y a deux figures qui me sont extrêmement chères et sympathiques. C'est d'une part le fêtard qui confond la fête de Noël avec la finale de la Coupe du Monde et qui fait n'importe quoi. Et surtout le trouble-fête. Et dans toutes les familles, il y a des troubles-fêtes. Vous savez, des gens qui sont marginaux, qui sont à la lisière, à la limite. Ils sont tentés, ils ont envie de venir, mais ils viennent pas. Ou ils viennent, mais ils s'impliquent pas. Non, je pense que il est tout à fait possible de réussir cette fête et d'aimer cette fête et de se réjouir. Mais autant mettre le curseur au bon niveau et pas attendre à ce que ce soit nécessairement le grand 8 tous les ans.
Merci beaucoup Stéphane Flocari, vous étiez l'invité d'RTL Midi. Je rappelle votre livre « Survivre à Noël » aux éditions Encre Marine. Je vous souhaite une très bonne journée.
Merci.
Dans un instant, la météo, un point complet sur la tempête.
Laissez-vous tenter week-end.
Bonjour, c'est Bernard Lehu. Une belle idée à la veille de Noël. Marlène Jobert raconte le livre de la jungle dans un livre CD pour les enfants. Les romancières Karine Thuil et Victoria Mas ont récolté les lauriers de la rentrée littéraire. Elles sont passées cette semaine par Laissez-vous tenter. Et puis nous reviendrons sur la sortie de Star Wars 9, l'épisode qui clôt la saga la plus célèbre du cinéma. A tout de suite.
Chaque dimanche de 13h à 13h30, Laissez-vous tenter week-end sur RTL.
RTL Midi.
La météo, Valérie Quintin, la tempête est passée. Il reste encore 6 départements en vigilance orange.
Alors, pour les vents, il y a la Corse, les 2 départements Corse et les Alpes-Maritimes. Et puis, on a des vigilances orange pour des crues, des risques d'inondation. Mais là, ça s'agit de la Bretagne, le Finistère, l'Ille-et-Vilaine et puis un petit peu plus au sud, la Charente-Maritime, qui sont donc placés en vigilance pour des risques d'inondation. On a des averses orageuses qui circulent un petit peu d'ouest en est. Alors, pour l'instant, il y a surtout des pluies dans l'est du pays avec beaucoup de neige en montagne. Et de nouvelles pluies orageuses sont en train d'aborder les côtes atlantiques. Et d'ailleurs, près de l'Atlantique, les vents vont à nouveau se renforcer dans le courant de l'après-midi entre la Gironde et les Pyrénées-Atlantiques avec des rafales jusqu'à 120 km/h en pointe. La Corse, quant à elle, devrait essuyer de très fortes rafales jusqu'à demain matin avec encore des pointes jusqu'à 150 km/h, aussi bien sur le cap que sur la montagne. Les températures, c'est la bonne nouvelle du jour. Elles sont 12 toujours, 10 à Metz, 11 à Paris et à Grenoble, 12 degrés à Rennes et Toulouse et 17 à Toulon.
Merci Valérie Quintin.